Donc bonjour Isabelle Boissard, merci de nous consacrer du temps pour venir parler de ton livre La fille que ma mère imaginait aux éditions Les Avrils. Alors pour commencer, en fait, pour présenter le livre, parce que tu vas nous le présenter brillamment, moi j'avais envie de partir du titre que je viens de donner mais que je vais donc redonner, La fille que ma mère imaginait. Un titre en fait qui pose d'emblée une dichotomie entre ce qu'on est, ce qu'on croit être, et puis finalement ce que la société ou la famille voit de nous. Et est-ce qu'on peut dire finalement que le fil directeur de tout ton livre, c'est justement le décalage?
Ah bah exactement. C'est vraiment non mais c'est vraiment ça. Le décalage de ma narratrice, il est géographique et social. Et je crois vraiment qu'on a tous des décalages. Moi je me sens particulièrement décalée mais au quotidien. Donc mais j'avais envie d'explorer ça, ouais. De se sentir en fait aussi spectateur. Voilà, un petit théâtre et puis elle consigne ma narratrice ce qu'elle voit, ce qu'elle pense. Ce qui lui arrive, et puis elle essaie de comprendre pourquoi elle se sent décalée.
Alors justement, c'est quoi la situation de cette narratrice pour les malheureux qui n'auraient pas encore lu le livre?
Alors, c'est une conjointe suiveuse qui suit son mari au gré des expatriations diverses. Et le texte commence, elle part en expatriation à Taïwan. Elle a à peine le temps de s'installer, de comprendre, de s'adapter, qu'elle doit repartir au chevet de sa mère, malade en France.
Du coup, pour écrire ce livre, tu as choisi la forme du journal intime. Alors pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que c'est une forme aussi qui renvoie à l'enfance? Parce qu'on a tous écrit quand on était petit dans des journaux intimes avec des cadenas, avec des cœurs collés dessus et personne n'avait le droit d'y toucher. Pourquoi en fait est-ce que tu as choisi cette forme particulière qui joue aussi en plus sur le jeu? Parce qu'évidemment, il y a le jeu de la narratrice, le jeu qui est à toi, qui est aussi toi un petit peu. Donc comment est-ce que tu t'es débrouillé au niveau de la forme en fait pour écrire tout ça?
Ouais. Alors le journal intime, je voulais en fait moi encadrer le texte dans un temps assez court. Et je voulais une narratrice un peu tyrannique qui n'aurait parlé que d'elle ou que de ce qui la touche. Et puis surtout, je la voulais pas politiquement correcte, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de lâcher les chiens comme ça ou de lâcher prise? C'est vraiment le journal intime. Donc voilà, donc je voulais jouer avec ça, une narratrice qui avoue ses fantasmes, ses hontes, ses peurs, voilà, ses mauvais penchants. J'ai une lectrice qui m'avait écrit pour me dire qu'elle avait aimé le livre, mais qu'elle avait été très gênée par les pensées grivoises de la narratrice. Voilà. Ben, le journal intime, ça permet ça, et moi, ça me plaît beaucoup.
Et alors, comment on gère alors l'autofiction, c'est le grand mot à la mode, mais c'est une autofiction. C'est il y a clairement un terreau autobiographique, mais que tu as choisi de transformer en œuvre littéraire. Et donc, comment, enfin, c'est quoi les dangers en fait quand on écrit une autofiction? Parce que moi, je me suis demandé vraiment en lisant le livre, à quel moment est-ce que par exemple tu t'es censuré sur des choses ou pas du tout. Comment t'as géré en fait le choix de ce genre?
Ouais, alors l'autofiction, c'est effectivement un peu dangereux pour soi et pour l'entourage. Alors j'avais pris le parti de ne pas parler de mes filles. D'ailleurs, elles ne sont pas nommées, je n'ai même pas donné un faux prénom. Ou, voilà. Elles ne sont pas nommées sinon que parce que j'ai réellement deux filles dans la vie. Et puis, en fait, au départ, j'avais envie quand même de parler de mon père. Enfin, ouais, je crois que j'étais très à l'aise avec ça. Ma mère, c'était beaucoup plus délicat parce que, pour le coup, ma mère n'a jamais été dans le coma. Donc, ça, c'est une fiction totale. Donc, voilà, ça, c'était un peu compliqué. Et puis, bon, après. Dans l'autofiction, qui est-ce que je pourrais. Il y a les expats. Bon, J'ai finalement pas pris de garde du corps. Ça s'est super bien passé. Et puis mon mari, j'ai un mari formidable qui a beaucoup d'humour et qui a pas, qui s'est pas du tout reconnu.
Oui, évidemment, évidemment. Mais alors l'humour, justement.
Beaucoup de fiction.
Parce que l'humour, c'est un des traits principaux de ce livre. Moi, j'ai énormément ri en le lisant. Alors, bon, j'imagine que voilà, parce que déjà, c'est ta personnalité, mais est-ce que c'était aussi une façon, alors, soit de se protéger, soit une arme aussi?
Ouais, en fait, c'est, ouais, je crois que c'est vraiment ça. C'est les deux. Je crois que l'humour, de toute façon, dans la vie, je sais pas comment font les gens qui n'en sont pas pourvus parce que ou qui ne l'apprécient pas parce que bah, tu vas te suicider direct. Je veux dire, c'est horrible. Donc, je trouve toujours que l'humour permet une distance. Duras, elle disait qu'il fallait toujours apaiser le texte, parce qu'un texte naissait toujours d'une tragédie, etc. Donc voilà, moi, désarmer un texte, c'est avec l'humour. Donc ça, c'était primordial, parce qu'il y avait... La narratrice est dans une situation d'expatriée totalement privilégiée. Bon, on peut clairement pas se plaindre de ça sans en rire. Et puis après, quand elle parle de son enfance, c'est une narratrice qui a été aimée. Donc c'est pareil, on peut pas... Elle pouvait pas... Voilà. Moi, je trouve qu'on peut pas se plaindre de... On peut pas parler d'une enfance, même s'il y a eu un point de bascule dans cette enfance. Il n'empêche que... Le postulat, c'est qu'elle a été aimée. Donc ouais, c'est toujours faire un pas de côté, parce qu'il y a toujours plus grave. Et puis, ouais, puis je crois que c'est un réflexe. En fait, j'ai essayé d'écrire sérieusement. Enfin, sérieusement. Toujours sur un mode... c'est-à-dire pas convoquer d'humour, mais je n'y arrive pas, en fait. À un moment, c'est, je sais pas, c'est une soupape. Voilà. Donc, je sais pas si j'écrirai un deuxième, mais je crois pas que je sois un écrivain qui puisse faire sans. Et après, j'ai un copain qui lui écrit et m'avait dit ta limite, c'est ton style. Parce que je trouvais que c'était une limite, en fait, cette façon d'écrire, et puis tout d'un coup, tu dérailles, quoi. Et en fait, bah, finalement, je me dis non, c'est ma façon d'écrire.
Et puis il y a quand même un équilibre, parce que c'est extrêmement touchant aussi. Donc on n'est pas, c'est pas dans, justement, tu parlais de grivoiserie tout à l'heure, il ne s'agit pas de dire du tout que c'est un livre grivois. Et tu arrives à trouver un équilibre justement entre des moments extrêmement touchants, notamment quand tu parles de l'enfance.
En fait, la partie qui m'a pris le plus de temps, c'était justement de construire l'ossature. C'était de me dire quelle forme et quel propos. Donc je revenais sans arrêt à ça. Et je crois qu'à un moment, je n'arrivais pas, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose de très linéaire, puisque là c'est fragmentaire. Et je n'y suis pas arrivée. Je trouvais ça ennuyeux, je trouvais ça, je ne sais pas. Et à un moment, quand je me suis autorisée ces fragments, là, justement, j'arrivais à gérer une écriture qui était en fait assez hétérogène. C'est-à-dire de faire quelque chose d'un peu drôle, et puis dans un moment où je parlais d'un sujet plus sur l'enfance notamment, où là je pouvais me permettre un peu plus de récits, je sais pas comment le qualifier, mais et donc en fait j'ai pas du tout j'avais vraiment un plan, en fait. C'était ça qui était assez... c'était de faire un récit fragmentaire tout en ayant un plan et un début et une fin. Donc ça j'ai vraiment fait un puzzle avec énormément de... Après, j'ai modifié aussi mes fragments. La partie expatriée, pour tout dire... Je n'en parlais que très peu quand j'ai proposé mon texte aux Avrils. Et les Avrils m'ont dit, nous, on a adoré, on veut signer avec vous. Et elles ont suggéré de rajouter de la matière, et en l'occurrence de la matière sur l'expatriation. Moi, je pensais que ça n'intéressait personne. Donc j'avais pas tellement envie de m'étendre là-dessus. Et pareil, je me suis dit, mais comment je vais traiter l'expatriation puisque par décence, je peux pas faire une narratrice qui soit désœuvrée. Oui, mais il faut vraiment qu'elle ait de l'autodérision sur sa situation puisque c'est vraiment. Elle est dans une situation où tout le monde pourrait, enfin, un peu idéale, se retrouver à pouvoir faire absolument ce que tu veux de tes journées dans un pays plutôt sympa. Hein, elle fait des pays sympathiques.
Oui, moi, enfin, en même temps, expression à la mode, il y a aussi finalement une question d'écrivain quand tu es expatrié dans le rapport à la langue. Parce que alors, c'est peut-être facile financièrement, etc., mais tu te retrouves quand même dans un pays où. Tu maîtrises pas les mots, tu maîtrises pas. Donc, est-ce que tu
Ouais.
penses que ça a été un moteur de ton écriture aussi?
Pas du tout.
Ouais.
Pas du tout.
Je me suis demandé.
Non. Non, alors vraiment, pas du tout. Non, je crois que vraiment, le point de départ, c'était. Alors, le point de départ, en fait, j'avais commencé à écrire en Italie. Il y avait une feuille de chou pour les expats qui s'appelait. J'ai plus en tête le nom de cette feuille de chou. Mais enfin, qui était une feuille de chou destinée aux expats français. Et puis, j'ai une copine qui m'a dit, viens, on écrit. On se sentait toutes les deux décalées dans ce milieu. Et elle me dit, viens, on écrit, ils cherchent des gens pour, tu vois, qui pour conseiller d'aller visiter la Mole. Ou, enfin bon, bref, tu pouvais donner une recette de la potée aux choux comme tu pouvais écrire un truc hyper littéraire. Donc, nous voilà partis toutes les deux à écrire. On avait appelé ça la chronique de la truffe. Ou des truffes, je sais plus. Et là, c'était vraiment, voilà, la femme d'expat, comme quoi c'était pas si facile, en gros. Et puis on écrivait à deux mains, bon, donc c'était plutôt sympa. Et ensuite à Taipei, je me suis dit, là, c'était la mode des blogs, tu sais. Là, je me suis dit, je vais faire un blog. Comme ça, je n'écrirai pas 30 fois à la famille, aux amis, comment ça va. Et je voulais vraiment, je voulais un angle résolument non touristique et je voulais absolument pas me mettre en vitrine. Le côté, c'est ma vie est géniale, les enfants sont bilingues, mon mari est formidable. Enfin, ce truc-là, donc, je prenais soin, quand je racontais quelque chose, c'était souvent la loose totale. C'était que justement je n'avais pas compris une situation ou enfin et au début j'avais laissé ouvert les commentaires et au début j'ai une amie qui me dit oh, mais c'est horrible ma pauvre enfin bon et là je me suis dit ah, mais ça va pas du tout justement c'est pas ma pauvre non c'est moi ce que j'en fais quoi de et j'ai coupé les commentaires j'ai continué pendant 2 ans voilà c'était un peu ce regard de totalement lost in translation, voilà là pour le coup à pas comprendre, mais il y avait pas ce besoin de, c'était pas par rapport à la langue, c'était vraiment par rapport aux situations que je vivais, moi à un moment de se sentir tellement larguée et à la fois dans le pays parce que même visuellement voilà. On comprend vraiment rien à ce qui est écrit dans la rue. Donc voilà, être largué totalement et en même temps dans le milieu de la communauté française à se sentir décalé aussi. Hier, il y avait vraiment un côté, faut lâcher les chiens à un moment, faut que je le dise à quelqu'un. Mon mari ne s'intéressait pas beaucoup, mes enfants non plus. Donc ouais, c'était voilà, il y avait un côté. Je crois que je me suis mise à l'écriture pour ça, un moment pour dire non mais faut vraiment que j'ai vraiment envie de dire moi qui je suis. C'est-à-dire, je ne suis pas issue d'un milieu bourgeois, j'ai pas une maison de famille, je sais pas où, en Bretagne ou et je ne trouve pas cette vie géniale. Et voilà. Donc je crois que c'est voilà, on en revient au décalage de ta question de début. C'est un moment de se dire, non mais il faut. Et je pense que l'écriture est le lieu où on peut s'abriter, se redéfinir, sans. Bon, puis après, tu t'exposes si tu es édité. Donc, mais à un moment, tu es à l'abri de tout et tu peux vraiment lâcher les chiens, lâcher prise. Alors après, je dis pas que ça sauve ni rien du tout, mais il y a quand même quelque chose qui. qui fait très plaisir de se dire ça y est, je l'ai. En fait, tu l'as déposé, quoi.
Ouais. Justement, parce qu'il y a aussi la question de la transmission dans ton livre, que ce soit par rapport à tes parents. Alors, tu n'évoques pas forcément tes filles, mais est-ce que justement, cette idée de famille, tu la retrouves aussi au niveau littéraire? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu penses appartenir à une famille littéraire ou une famille d'écrivains?
Oh, alors là, non, je sais pas. Les éditrices, elles avaient... Je crois qu'elles avaient dit que c'était comme si Guy Delisle chroniquait Annie Ernaux, ou je sais plus, quelque chose comme ça. C'est... Je suis pas sûre de cette citation.
Ça pourrait.
Après, ouais, il y a eu des... Alors, non, moi, je crois vraiment que ce serait hyper prétentieux de me dire que je me sens de la famille de...
Non, mais tu peux être imprégnée par des auteurs.
Oui, alors... Ouais, alors après, par exemple, il y a vraiment des auteurs comme Didier Ribon, Retour à Reims, c'est un bouquin qui a été une révélation. Annie Ernaux aussi. Moi, ce que j'adore, les auteurs que j'adore, c'est finalement pas tellement en littérature. Enfin, c'est Bretéché, voilà, je suis une inconditionnelle de Bretéché, de Desproges, qui a écrit un roman.
Ouais,
quand les femmes tombent, des femmes qui tombent, ah oui, je confonds avec quand la ville tombe, tu dis Castino. Des femmes qui tombent, voilà, excellent. Voilà, donc j'ai des. En fait, je suis de l'école de la génération des nuls. Et justement, je crois qu'en fait, je me suis presque appuyée sur des trucs mauvais pour arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire, non pas des trucs mauvais que j'avais lus, hein. Mais je voyais des trucs sortir et je me disais, parce que j'ai vraiment écrit tout le temps dans le doute, en me sentant totalement illégitime, et parce que je n'ai pas fait les bonnes études, je ne viens pas du milieu qui légitimerait que je puisse croire que je peux écrire, enfin bon, bref. Et à un moment, il y avait quand même cette force de me dire, il y a quand même des trucs terriblement mauvais qui sortent. Bon, je pourquoi pas moi, quoi. Tu sais, la youtubeuse qui fait son coucou tout le monde. Parce que non, mais c'est... alors il y avait de ça, et puis j'ai eu une chance incroyable, on n'en a pas parlé de ça. J'ai fait des ateliers d'écriture et un auteur avec qui j'ai fait un atelier m'a dit qu'est-ce que tu fous dans un atelier d'écriture. Et suite à des échanges, lui, il m'a dit, si tu écris, je te lirai. Non, et en fait, promesse tenue, parce que ça m'a... C'est quelqu'un qui me tendait la main, c'est quelqu'un qui m'autorisait, quoi, qui me disait, mais si, tu peux le faire. Et je lui ai envoyé, je sais pas, je pense, le premier quart, et il m'a juste répondu dans la journée, vas-y, continue. Maintenant, tu m'envoies plus rien jusqu'à la fin. Et voilà, ça c'était en septembre. En décembre, je lui ai envoyé. Et pareil, le lendemain, il me dit je pense que tu peux l'envoyer, ça tient la route. Et puis c'est tout. Je veux dire, il ne m'a pas aidé à trouver un éditeur, ou il n'est pas rentré dans mon texte pour. Ah si, il m'a juste dit ouais, il y avait une scène où il me dit selon moi, je la dégagerai. Mais sinon, voilà. Et ça a été. Absolument, mais c'était une main tendue de dingue. Parce que quand on n'est pas. Enfin, voilà, il y a plein de bouquins qui sont édités et qui sont envoyés par la poste, etc. Mais quand on est, dans sa chambre à soi. Voilà, en fait, c'est très long, on fait quelque chose et puis on ne sait pas du tout ce que ça vaut. Enfin. Non, mais c'était... Parce que j'avais déjà essayé, hein. J'avais envoyé un premier texte qui n'avait pas trouvé d'éditeur. Et je crois que, voilà, ça m'avait un peu... J'étais prête à recommencer, mais bon, on se dit à quoi bon, gna gna gna. Donc là, en fait, d'avoir, je sais pas, le regard d'un auteur, ça m'a porté.
Et donc, ce deuxième livre.
Ah ouais, voilà. Alors j'ai... J'ai une petite idée, mais toute petite. Et voilà, dont il n'y a rien à dire encore pour l'instant. J'ai complètement arrêté d'écrire là. J'avais continué un peu et j'avais l'impression que je continuais à écrire la fille que ma mère imaginait. Donc je me suis dit qu'il fallait arrêter. Et voilà, j'ai une petite idée. On va voir si je vais au bout, si je commence déjà à l'exploiter. L'explorer, je sais pas comment l'exploiter, ça fait bizarre. Mais moi j'ai très peur en fait de... J'ai très peur de réécrire la même chose. C'est ma plus grande peur. Enfin, ma plus grande peur...
littéraire.
Voilà. Donc, en fait, je ne suis pas très pressée de m'y remettre. C'est vrai que là, la matière première, c'était facile. J'avais la matière première pour écrire ce livre.
Oui, enfin, c'est pas pour ça que tout le monde... C'est pas facile. Je ne l'aurais pas fait, par exemple.
Non, mais en tous les cas, voilà. J'avais déjà cet apport-là. Le deuxième... Alors, je rentre en France, donc j'ai des copains qui me disent « écris le retour hein. ». Mais non, je crois que je vais pas écrire le retour. Ou je sais pas, peut-être que quand je vais aller à la sécu tenter de m'affilier, ça va me donner des envies. En tous les cas, il va falloir que je reprenne à nouveau confiance, parce qu'évidemment... J'ai l'impression que je ne suis absolument pas capable d'écrire un deuxième. Donc voilà, ça c'est une autre histoire.
Mais si. Mais enfin, de toute façon, déjà, savourons le premier, hein. Et puis, on verra ça plus tard. Bon, merci beaucoup d'avoir grignoté quelques cacahuètes.
Désolée, ouais.
Ben non, mais
avec des bouchons dedans.
Et donc, je rappelle le titre de ce merveilleux livre. T'as vu, je le prends comme si je faisais François Bunel qui montre à la caméra alors que nous sommes. Donc, voilà. Face caméra, la fille que ma mère imaginait aux éditions Les Avrils.
Merveilleuse maison d'édition. J'embrasse Lola et Sandrine.